Alors, pour le webinaire consacré aux principes républicains, je refais toujours la même remarque. On parle, et dans les textes, hein, il est indiqué qu'il faut transmettre les valeurs de la laïcité et les valeurs de la République. Alors, moi, je préfère bien sûr parler de principes parce que tout ce dont on a traité la dernière fois, c'est-à-dire la laïcité, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui également? C'est la présentation de principes juridiques. Alors pourquoi ce sont des principes juridiques? Ben parce qu'ils sont dans des textes, et là il se trouve que c'est le texte le plus important, à savoir la Constitution, parce qu'il bénéficie d'une protection juridique, parce qu'il donne lieu à des jurisprudences. Et donc on doit tous bien sûr les appliquer. Je préfère toujours employer le terme principe que de valeurs, parce que nous ne sommes pas obligés tous, hein, d'être d'accord avec des valeurs. En revanche, nous sommes obligés tous d'appliquer des principes juridiques. Alors, avant de présenter, nous étions convenus que je présente très rapidement ce qu'est l'état de droit. Voilà, donc moi je fais du droit, je vous présente des principes de droit. De reprendre très rapidement, parce qu'on pourrait y rester des heures, la notion d'état de droit. Je sais que c'est très certainement dans les programmes de seconde, en EMC, hein, il y a un focus sur l'état de droit, et c'est important de savoir ce que c'est. Alors, l'état de droit, il a été théorisé par Hans Kelsen au début du XXe siècle. C'est un juriste autrichien qui, dans son ouvrage intitulé La théorie pure du droit, voilà, présente toute une
Théorie.
l'État. Alors, il y a plusieurs théories de l'État. On peut avoir une approche sociologique de l'État, on peut en avoir une approche économique, ça, on va retrouver un schéma, une approche sociologique. Mais travailler sur l'État de droit, c'est partir de l'égalité suivante. L'État, c'est le droit. Politique, c'est ce qu'on met dans les règles de droit. Donc, si on parle d'égalité, l'État, c'est le droit. Eh bien, il faut définir ce qu'est le droit. Et le droit, c'est un ensemble de normes, c'est un ensemble de règles juridiques qui se présentent sous la forme d'une pyramide. Et c'est Kelsen qui a théorisé cela en disant, en travaillant, en expliquant ce qu'était la pyramide des normes. Donc, la pyramide des normes, c'est le fait de hiérarchiser les règles de droit. On part au sommet avec la norme qui est la plus importante, qui a la plus grande valeur, qui est la Constitution. En dessous se trouvent les traités internationaux. Sous les traités se trouve la loi, qu'elle soit faite par le peuple ou qu'elle soit faite par la nation, j'y reviendrai. Sous la loi se trouvent tous les actes administratifs, avec à l'intérieur une hiérarchie entre les actes réglementaires et les actes individuels. Parmi les actes réglementaires, on a aussi une hiérarchie, puisque les actes les plus élevés, les actes administratifs les plus élevés, ce sont les décrets. Les décrets sont pris par le président de la République et le Premier ministre. En dessous des décrets, nous avons les arrêtés, donc des arrêtés ministériels, des arrêtés préfectoraux, des arrêtés, etc. Comme ça, il y a toute une hiérarchie des actes administratifs. Ensuite, on a tous les actes de droit privé, les contrats, etc., etc. Et donc, l'état de droit, c'est un état, voilà, qui se définit par cette pyramide des normes. Mais ça ne suffit pas. Il faut que cette pyramide tienne, il faut qu'elle soit solide. Parce que si la pyramide chancelle, c'est l'état de droit qui tombe et l'état n'existe plus. Et donc, il y a une règle, si vous voulez, c'est ce qu'a théorisé encore une fois Kelsen, qui dit que chaque norme, donc chaque règle de droit, tire sa force obligatoire, c'est-à-dire une règle de droit ne s'imposera à nous et nous ne pourrons nous en prévaloir que si elle est conforme à la norme qui lui est immédiatement supérieure. C'est-à-dire que toute règle de droit s'applique à l'unique condition qu'elle respecte la norme qui lui est immédiatement. Donc, si on part du bas de la pyramide, vous voyez, chaque norme, voilà, doit être conforme à la norme qui lui est immédiatement supérieure, ce qui suppose l'existence de juges. Voilà. Et dans une démocratie, bien sûr, les juges doivent être impartiaux, indépendants, etc. Et donc, un état de droit, c'est non seulement un état défini par des règles hiérarchisées, mais surtout par l'existence de juges dont la fonction est de vérifier ces rapports de conformité. Donc, les juges judiciaires vont s'occuper ben, des actes privés par rapport aux normes qui sont au-dessus. Le juge administratif, lui, son rôle, c'est de vérifier la conformité des actes administratifs par rapport à tout ce qu'il y a au-dessus. Et le Conseil constitutionnel, eh bien, il s'occupe de vérifier que les lois et les traités sont conformes à la Constitution. Voilà ce que c'est un état de droit. Après, l'état de droit, il peut être une monarchie différente. Dans notre Constitution, nous pouvons avoir une république, nous pouvons avoir une démocratie, etc. Mais ça, c'est le contenu du régime. L'état de droit, c'est juste ça. Voilà. Et pourquoi il appelait ça la théorie pure du droit? Eh bien, parce que quand il présente l'État ainsi, il n'est pas influencé par des facteurs extérieurs. Il n'est pas influencé par de la politique. Il n'est pas influencé par de l'économie ou par de la socio. Il pose juste cette égalité, voilà, que l'État, voilà, c'est un ensemble de règles de droit. Et donc, quand nous regardons la Constitution française donc, de la Ve République de 1958, eh bien, c'est là qu'on voit effectivement que notre régime, alors, est une république. Voilà, alors on pourrait effectivement travailler sur la République rapidement. Elle a eu plusieurs significations, la République. La République, elle a d'abord signifié l'État. Voilà, la République, c'était au départ l'État, c'est-à-dire la res publica, la chose publique, par opposition, si vous voulez, aux affaires privées. Et puis après, en France particulièrement, la République a signifié un État non monarchique. C'est vrai que la République se définit comme étant un régime non monarchique. Et aujourd'hui, cette République française, elle est synthétisée, bien voilà, par un ensemble de valeurs, mais surtout par un ensemble de principes. C'est ce qu'on présente souvent sous l'expression de pacte républicain. Voilà, il y a tout un ensemble de principes, alors qui se sont forgés au fil du temps. Hein. C'est pas le constituant de 1958 qui a dit voilà, je décide que la République sera comme ça. Ça, c'est le produit d'une longue histoire que je ne peux pas retracer. Moi, je vais juste rester hein, sur quels sont ces principes et qu'est-ce qu'ils signifient. Donc, c'est un état de droit, c'est une forme de gouvernement, c'est aussi un modèle philosophique. Voilà. La République puise ses racines dans la Révolution, hein, dans la Révolution française, comme c'était le cas de la laïcité. Et donc, ces principes républicains, ce pacte républicain, est inscrit dans la Constitution de 1958, donc dans le texte le plus élevé. Ça veut donc dire que toutes les normes qui lui sont inférieures doivent respecter notamment ces principes républicains. Et ce sont les deux premiers articles, principalement de la Constitution. Allez, je vais rajouter le troisième aussi. Mais principalement les deux premiers articles, mais je ferai une petite parenthèse sur l'article 3, qui rappelle, voilà, les fondements républicain de notre État. Donc l'article premier, c'est celui qui présente les qualités inhérentes à notre République, les principes républicains, c'est-à-dire ceux qui qualifient notre République. Et donc dans l'article premier, c'est juste le début qui est important. Il est indiqué, vous le connaissez, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Les voilà les caractères, si vous voulez, de notre république. Elle est laïque, elle est démocratique, elle est indivisible et elle est sociale. Quant à l'article 2 de la Constitution, lui, ben justement, présente les symboles de la République. Alors, pas tous les symboles. Il n'y a pas Marianne dans la Constitution. Les symboles de la République sont les suivants. La langue, l'emblème, c'est-à-dire le drapeau, l'hymne, la Marseillaise, la devise et le principe. C'est ça ce qu'on appelle, alors moi, des principes républicains, hein, mais qui sont aussi des valeurs républicaines. Et donc je pensais qu'il était intéressant de les présenter, ces principes, parce que dans le référentiel de compétences de tous les personnels d'enseignement, il est indiqué, voilà, il faut transmettre les valeurs de la République. Et à chaque fois, dans les textes que j'ai pu voir, on nous dit, mais voilà, les valeurs de la République, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité et laïcité. Mais c'est largement insuffisant. Les valeurs de la République, les principes républicains, ne se réduisent pas à la devise et à la laïcité. Voilà. Et les autres principes existent, hein, c'est pas une invention de l'esprit. Ils sont mentionnés dès le début du texte fondamental qu'est la Constitution et ils sont très riches. Voilà, ils sont très très riches. On peut énormément travailler sur ces principes-là. Donc voilà, ça je voulais une petite introduction avec ça. Alors, le premier principe républicain, il n'est pas inscrit dans l'article 1 ou dans l'article 2. Il est inscrit dans l'article 3. Le premier principe républicain, c'est la souveraineté nationale. Lorsque j'avais présenté le principe de laïcité lors du dernier webinaire, j'étais revenu au fondement révolutionnaire et j'avais expliqué effectivement que les bases de la laïcité se situaient à la Révolution, avec notamment la constitution de cet espace politique, hein, de cette sphère politique fondée justement sur la souveraineté nationale. C'est absolument fondamental, hein. La souveraineté nationale, c'est le premier des principes républicains qui signifie, si vous voulez, que l'origine de tout pouvoir, la souveraineté, voilà, l'origine de tout pouvoir se situe dans la nation. Voilà. Étant chez nous particulière, hein, il y a plusieurs conceptions de la nation. On peut travailler sur la nation. Il y a la conception allemande de Fichte, hein, qui disait notamment, voilà, alors je ne suis pas historienne, donc je parle sous votre contrôle, mais selon Fichte, la nation, c'est un ensemble d'individus liés par des traits communs. Et parmi ces traits communs, il y avait quand même la race. Bon, ce n'est pas la conception, nous, qu'on a retenue de la nation en France. Nous, il faut aller chercher Renan, notamment, qui dit que la nation, c'est un ensemble d'individus liés, effectivement, par des traits communs, une histoire, une langue. C'est pour ça que la langue, c'est important. Le symbole de la République, c'est aussi quelque chose qui réunit les citoyens d'une. Et il ajoute, Renan, dans sa définition, à côté de ces éléments objectifs qui nous sont communs, il ajoute un élément subjectif qui est, et là j'insiste, le vouloir vivre ensemble. Il dit que la nation est un plébiscite de tous les jours. Et quand on entend tous les discours, vous le savez, hein, la laïcité, c'est le vivre ensemble, on n'arrête pas à l'INSPE, voilà, on se voit, voilà, enfin pas moi, mais voilà, de parler du vivre ensemble, ça n'a aucune consistance juridique, le vivre ensemble. En revanche, si on travaille sur la nation, c'est-à-dire, encore une fois, ce qui nous lie en tant que citoyens, alors allons sur les textes, allons sur ceux qui ont construit le concept de nation et on verra qu'ils ne parlent pas de vivre ensemble, mais de vouloir vivre ensemble. Et là, c'est différent. Parce que là, on peut commencer à se dire, ah, il faudrait peut-être que je comprenne pourquoi certains ne veulent pas vivre ensemble, pourquoi certains ne veulent pas faire partie ou ne peuvent pas. Après, voilà, il y a énormément de choses à dire. Pourquoi certains ne veulent ou ne peuvent pas faire partie de la nation. Et là, on va sur quoi? Sur le séparatisme. Vous voyez, ce sentiment d'appartenance, c'est très compliqué. Comment se sentir appartenir à une nation? Et c'est là où je pense qu'il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire parce que, justement, certains seraient enclins à dire que, finalement, la nation, c'est quoi? C'est une addition d'individus. Ben non, ça, c'est le peuple. Ou la nation, c'est une adjonction de communauté. Ben non, ça, si on fait ça, on va sur le communautarisme. Vous voyez? Donc travailler sur la nation, c'est travailler sur le premier principe républicain, tout simplement, parce que tout pouvoir tire son origine de cette nation-là. Et la nation, c'est une construction, c'est quelque chose d'abstrait, la nation. Autant le peuple, vous voyez, c'est une notion très concrète, là, il faut relire Rousseau, hein. Le peuple, c'est 1 plus 1 plus 1, c'est la somme arithmétique des gens qui vivent à un moment donné sur un territoire donné. Donc c'est très concret. En revanche, la nation, c'est une notion totalement abstraite. C'est pour ça que plusieurs auteurs l'ont construite. Nous, notre nation, elle a été construite à la Révolution avec ce principe fondamental qui est l'égalité des citoyens. Nous sommes tous, faisons tous partie de la même catégorie, celle des citoyens. Et on postule à la Révolution l'égalité des citoyens. Nul ne peut, s'approprier une part de souveraineté. Et ça, c'est l'article 3 de la Constitution qui dit, voilà, aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale. Donc on est fort loin, par exemple, vous savez, quand il y avait les lois raciales aux États-Unis, la Cour suprême a pris un arrêt pour fonder un petit peu ces lois raciales, pour essayer de les légitimer. Et qu'est-ce qu'elle a? C'est une formule particulière. Elle a eu cette formule, nous sommes égaux, mais séparés. Je pense qu'actuellement, il y a des mouvements qui tendent à ça. On est égaux, mais séparés. Mais ça a justifié les lois raciales aux États-Unis. Donc, travailler sur la nation, c'est aussi réinvestir quelque chose qui peut-être, voilà, après, c'est vous, hein, qui le jugez, mais qui peut-être est en danger. Il ne faut pas avoir peur de parler de nation. Voilà. On sait que c'est l'extrême droite qui s'est approprié cela, hein, parce que qui dit nation dit nationaliste, pas du tout. Mais pas du tout. La nation, c'est tout simplement celle qui est à l'origine de tout pouvoir. Voilà. Et il y a cette unité, cette égalité des citoyens qui est absolument fondamentale. Et c'est vrai que quand on travaille, par exemple, à l'école, on sait, l'école a pour but de construire des citoyens. Bah oui, donc construire des citoyens, c'est bien leur expliquer qu'ils vont faire partie de la nation. La seule communauté nationale qui est reconnue politiquement, c'est la seule, pardon, la seule communauté qui est reconnue politiquement, c'est la communauté nationale. Donc, il faut travailler sur la nation. Hein. C'est pas, voilà, c'est tout à fait légitime et tout à fait important. Et donc, dans cet article 3, je suis toujours sur cette souveraineté nationale, le premier alinéa est intéressant. Voilà comment il est formulé. La souveraineté nationale appartient au peuple. Alors ça, c'est faux. Enfin, c'est faux. Ils l'ont fait exprès. Moi, j'ai un étudiant une fois qui m'a dit, mais madame, ils se sont trompés. Ils ne se sont pas trompés. C'est exprès qu'ils l'ont formulé comme ça. Parce que la souveraineté nationale, elle appartient à la nation. C'est la souveraineté populaire qui appartient au peuple. Donc, quand on lit cette première phrase, la souveraineté nationale appartient au peuple, c'est pour dire quoi finalement? Ben, pour dire que en France, sous la Ve République, celui qui fait la loi, c'est autant la nation, via ses représentants, donc Parlement, etc., mais aussi le peuple. Et ça, c'est le référendum. Donc, travailler la citoyenneté dans le parcours citoyen, c'est effectivement, il faut passer, me semble-t-il, à travers, qu'est-ce que c'est que la nation? Mais à travers ce que l'on appelle, ça, c'est cet article 3, le compromis démo-libéral. C'est-à-dire que la Ve République a ça de très, de nouveau, hein, ça n'existait pas sous la Quatrième République, ou alors en marge, c'est que chez nous, en fait, il y a deux souverainetés. C'est la nation qui est souveraine, mais le peuple aussi. Et donc, ça veut dire que les lois, chez nous, elles peuvent être prises par le Parlement, donc par les représentants de la nation. Mais elles peuvent aussi être prises directement par le peuple via les référendums. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant de travailler quand on travaille le parcours, dans le cadre du parcours citoyen. Voilà. La citoyenneté, c'est vrai, c'est un ensemble de droits et d'obligations, mais l'élection, voilà, l'élection, elle est double chez nous. Voilà. Hein, la souveraineté est double. Donc, il ne faut pas confondre. Voilà, le peuple et la nation. Et si je finis cet article 3. Donc la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants, ça c'est la souveraineté nationale, et par la voie du référendum, c'est la souveraineté populaire. La souveraineté nationale, c'est une théorie libérale. La souveraineté populaire, ça c'est Rousseau, c'est une théorie démocratique, d'où le terme de compromis démo-libéral. Voilà. Après, voilà, on peut travailler sur l'élection. Il y a énormément de choses quand on nous dit que aucune section du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Un beau sujet, Aussi, quand on travaille sur les conditions de l'élection, les conditions du vote, vous voyez, il faut être majeur des deux sexes, etc. Ils ont quand même, en 2000, les constituants, introduit une phrase dans la Constitution pour permettre la parité. Donc, la parité. Hein, il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans les élections, dans les assemblées. Si je parle que de l'Assemblée nationale, moi, je fais tout. Je travaille, enfin, j'aime bien un peu provoquer les amphis avec ça. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre la parité? On pourrait se poser la question, mais pourquoi considérer qu'il y a des citoyens hommes et des citoyens femmes alors que nous sommes tous à égalité et qu'il n'y a qu'une seule catégorie de citoyens? Ça, c'est un beau sujet de débat, si vous voulez. Maintenant, c'est dans la Constitution, c'est possible. Mais ce n'est pas parce que c'est dans la Constitution qu'on ne peut pas en discuter. Hein, c'est, la parité est une question qui a été énormément débattue. Quand on travaille sur les conditions du droit de vote, on sait que depuis le traité de Maastricht, des étrangers, alors de l'Union, certes, mais des étrangers, peuvent voter aux élections municipales et être élus aux élections municipales. Et oui, mais pas tous les étrangers. Donc là, on peut se dire, mais il y a eu hein, certains partis politiques qui ont, alors ils l'ont toujours présenté. En campagne électorale, ils l'ont jamais fait après. Hein. Nous allons donner pour les élections municipales le droit de vote à tous les étrangers. Mais moi, je pense qu'il y a des gens à dire, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Hein. Voilà, le père espagnol, portugais de mon copain, il est au conseil municipal et moi, voilà, marocain ou autre, il n'y est pas. Il faut pouvoir répondre à ça. Vous voyez, la citoyenneté, c'est d'une richesse inouïe. Et sans ça, on n'a pas le reste. Voilà. On n'a pas les autres principes. On peut travailler sur les campagnes électorales. Si je veux actualiser un petit peu, ben, il y a les dernières lois sur les fake news pendant les campagnes électorales. Ça leur parle souvent aux jeunes. Hein. Voilà. Ben, ça, c'est une loi qui date de 2018. C'est pas vieux. Lutter contre les fake news pendant les campagnes électorales. À l'heure de ce que l'on entend aux États-Unis, hein, sur liberté d'expression totale. Il faut, alors Hélène Trump, X, etc., etc. Ben non, attention, le politique, c'est sérieux. Vous voyez, il y a les fake news, il y a toute la législation sur les lanceurs d'alerte. Vous voyez, enfin, c'est d'une richesse inouïe hein, quand on travaille sur ce premier principe qui est la souveraineté nationale. Et après, voilà, co comment on pratique. S'effectuent des élections. Le droit de vote, un homme, une voix, mais ça n'a pas toujours été le cas chez nous. Sous Vichy, il y avait le suffrage universel masculin, mais il y avait le vote plural. Le vote plural, c'était le fait que le père de famille pouvait voter autant de fois qu'il avait d'enfants. Donc, ça ne suffit pas le suffrage universel. Il faut rajouter l'égalité. En Grande-Bretagne, jusqu'en 1956, les chefs d'entreprise et les universitaires pouvaient voter dans deux lieux. Ils pouvaient voter au lieu de leur domicile, bien sûr, mais également au lieu de leur université ou de leur entreprise. Alors oui, il y a du suffrage universel, très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut rajouter l'égalité, il faut rajouter la liberté du vote. Vous voyez? Ben voilà, je ne veux pas. Voilà. Plus on pourra développer si vous voulez, mais il y a énormément, voilà, il y a énormément de choses sur ce premier principe qui est le principe de la souveraineté nationale. Et c'est donc à cet égard la Révolution française qui a façonné ce qu'on appelle l'État-nation. Voilà, c'est la Révolution, c'est pas un autre parti politique, voilà. Et l'idée, voyez, dans cette nation, dans cette souveraineté nationale. L'idée que l'on trouve et que l'on trouve dans absolument ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'idée d'unité. Voilà. La res publica, la chose publique, c'est la chose commune, c'est le un. C'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous est commun. L'unité, c'est le fil conducteur, vous voyez, de tous les principes républicains et de tous les symboles également républicains. Le second principe, c'est. Alors, la République indivisible, c'est vrai que ça, on ne le travaille jamais. On ne travaille jamais l'indivisibilité de la République. Alors, je ne reprends pas toute l'histoire, mais en proclamant l'indivisibilité de la République, eh bien, la Constitution s'inscrit là encore dans la tradition républicaine de 1792. Alors, 1792, c'est la date de la proclamation de la Première République. Et il faut savoir que la Première République, elle a été proclamée au cri de « Vive la nation ». Donc, chez nous, dans notre histoire, la construction de la République s'est faite avec celle de la nation. Vous voyez, c'est pour ça que c'est le premier principe, parce qu'elles sont consubstantielles, ces deux notions. Et donc, l'indivisibilité de la République signifie, alors, l'unité du pouvoir normatif. Voilà, l'unité du pouvoir normatif, c'est-à-dire que il n'y a qu'une seule catégorie de loi adoptée, alors, soit par les représentants de la nation, le Parlement, soit par le peuple directement, le référendum. Vous voyez, on retrouve hein, ce compromis des mots libéral. Il n'y a qu'une seule catégorie de loi qui s'applique sur l'ensemble du territoire. Et là encore, on peut faire un lien entre cette unité du pouvoir politique et l'unité ou l'unicité de la souveraineté nationale. C'est l'indivisibilité, si vous voulez, c'est le fait qu'il y a une constitution et il y a une loi. Mais là encore, ah oui, il y a une constitution, pardon, il y a une loi. C'est lié au fait qu'il n'y a qu'une nation et qu'un peuple. Exemple, s'agissant du peuple, en 91, le Parlement avait pris une loi sur le statut de la Corse. Et dans le texte, ils avaient mentionné, ils avaient consacré la notion de peuple corse. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé et il a invalidé. Il a dit qu'il n'y a pas de peuple corse à part. Le peuple corse est une composante du peuple français. Vous voyez cette unité? Unité de la nation, unité du peuple, unité constitutionnelle, unité du pouvoir normatif. Et c'est une révision constitutionnelle de 2003 qui a consacré implicitement l'unicité du peuple français, puisque cette révision constitutionnelle a ajouté un article 72-3 dans la Constitution, je vous le lis, la République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a un pouvoir normatif, une nation, un peuple, unité. Mais ça ne veut pas dire que la République, que notre droit, ne reconnaît pas la diversité. Parce qu'il y a des populations, regardez, hein, reconnaît au sein du peuple français, les populations d'outre-mer. C'est-à-dire qu'il y a des populations d'outre-mer, il y a des COM, collectivités d'outre-mer, il y a des territoires d'outre-mer. Maintenant, on ne fait plus un dom-tom, hein, mais il y a des populations d'outre-mer. Mais elles font partie du peuple, vous voyez? Mais je trouve intéressant de pouvoir travailler justement sur c'est très fréquent en droit, sur la dialectique unité-diversité. Les populations d'outre-mer, là, il faudra aller voir les articles 73 et 74 de la Constitution, mais les populations d'outre-mer peuvent adapter les lois à leur territoire, à leur population. Mais c'est toujours le Parlement qui les autorise à faire ça. Vous voyez, ça ne vient pas buter contre l'unité du pouvoir normatif. Mais c'est pas parce qu'il y a une loi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'une constitution que derrière, il n'y a pas de possibilité de reconnaissance de la diversité. Là aussi, moi, je trouve que c'est intéressant. Vous savez, il y a les opposants, notamment à la loi de 2004, hein, sur les signes, la manifestation religieuse à l'école, sur la loi de 2010, où ça interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Il y a souvent un argument qu'ils invoquent, c'est le fait justement que, ils pensent, à travers ces deux lois notamment, que maintenant il y a une sorte de catéchisme républicain qui est imposé à tout le monde, à l'école bien évidemment, et qu'il n'y a que cette unité républicaine, hein, Il parle de laïcité d'autorité. Il parle de laïcité catéchisme. Non, non. Il y a le commun, il y a le un, mais jamais, hein, cela veut dire, jamais cela signifie que la diversité n'est pas reconnue. Ça, c'est faux. Il faut lire la Constitution. Voilà. Hein. Il y a des populations d'outre-mer, elles peuvent adapter les lois, elles peuvent expérimenter. Il y a plein de techniques juridiques, si vous voulez, hein, qui font que des statuts particuliers peuvent être créés. Voilà. Donc ça, c'est l'indivisibilité qui ne veut pas dire uniformité, en fait. Voilà. L'indivisibilité, ce n'est pas l'uniformité. Ensuite, alors, la République laïque, je rappelle rapidement, hein, la République laïque, c'est le fait. Alors, la laïcité de la République, elle est fondée, hein, son cœur, c'est la loi de 1905. Rapidement, comment je pourrais la définir rapidement? La laïcité de la République, c'est un principe de séparation entre la sphère publique, c'est-à-dire la sphère des services publics, la sphère de la res publica, toujours pareil, le commun, l'uni, et la sphère privée, où là, effectivement, hein, s'expriment les différences, la diversité, etc. Donc, c'est un principe de séparation qui fait que les cultes, les religions ne sont plus des faits publics, ils sont devenus des faits privés, c'est-à-dire qu'ils ont été basculés dans la sphère privée. Principe de séparation, donc entre sphère publique et sphère privée, dont l'objectif est de garantir, de protéger deux grandes libertés acquises à la Révolution, la liberté de conscience et non pas la liberté religieuse. Hein, le terme liberté religieuse n'est dans aucun texte français. Voilà. Donc, chargé de protéger la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté d'avoir des opinions, des convictions de toute nature, donc y compris religieuse, mais pas que religieuse, donc protéger la liberté de conscience et protéger la liberté de culte. Voilà ce que c'est que le principe de laïcité. Autre caractéristique de notre République, elle est démocratique. Alors, ça, c'est très important. Il y a plusieurs volets dans la démocratie. Quand on travaille sur la démocratie, il y a tout ce qui est représentation des citoyens, participation du peuple à l'élaboration de la loi. C'est toutes les modalités de l'élection. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir, alors soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants, à la formulation de la loi. Donc il y a tout ce côté-là qui revient à travailler sur la souveraineté nationale. Et puis, il y a tout un autre volet qui est absolument énorme, c'est la consécration des libertés publiques. Alors, si je ne me trompe pas, il est obligatoire, je crois, hein, d'afficher dans tous les collèges, dans les lycées, dans tous les établissements scolaires, la déclaration de 1789. Bon, c'est bien, hein? Le problème, c'est que c'est absolument pas le seul texte qui proclame des libertés que nous avons en France. Et donc là, je voudrais juste, alors assez rapidement, parce que là, de plusieurs heures là-dessus, vous présenter, voilà, toutes les vagues successives de droits et de libertés qu'il y a eu en France. Toutes ces vagues-là sont condensées, sont référencé, si vous voulez, dans le préambule de la Constitution. Vous voyez, c'est encore dans la Constitution. Tout ce qui est fondamental et tout ce qui est lié à la République, c'est dans le texte fondamental. Je vous lis juste le premier paragraphe du Constitution. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Donc le premier texte, indéniablement, c'est la déclaration de 89. Mais, je poursuis, déclaration confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 46. Donc ça veut dire que dans mon préambule, j'ai quoi? La déclaration de 89. Mais j'ai aussi tout ce qui a été ajouté dans le préambule de 46. Donc je vais voir le préambule de 46 pour savoir exactement ce qui a été ajouté. Je le lis. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français donc proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion et de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Bon, il réaffirme solennellement les droits de 1789. Et il réaffirme quoi? Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ça, on n'en parle jamais. Pourtant, c'est dans la Constitution. Donc, si je reprends chronologiquement, première vague de droits de l'homme, 1789, je vais y revenir. Deuxième vague, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il se trouve que ce sont les principes de la Troisième République. Je continue mon préambule de 46. Il proclame en outre, c'est-à-dire qu'il ajoute à ces deux grandes vagues de droits les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Et là, il y a toute une liste de libertés. Je vais y revenir. Donc, si je résume, on a la Déclaration de 89, on a les grandes libertés de la Troisième, on a ce qui a été ajouté en 46, il y a toute une liste, et qu'on nomme, si vous voulez, qu'on présente comme principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Je reviens à mon préambule de 58 et depuis une révision de 2005 a été ajoutée la charte du gouvernement. Donc 1, 2, 3, 4, nous avons 4 vagues de droits de l'homme. Et donc dans les Bahus, on nous dit il faut afficher déclaration de 1789, mais pourquoi pas les autres? C'est absolument fondamental parce que la déclaration de 1789, rapidement, la déclaration de 89, c'est quoi? Ce sont des droits qui sont des droits exclusivement individuels. Il n'y a aucun droit collectif en 1789, il n'y a aucun droit social. Ça s'explique, ça. Pourquoi en 89, le révolutionnaire ne proclame que des droits individuels? Alors, liberté de conscience, liberté d'expression, liberté d'aller et de venir, droit de propriété, droit de vote, même si le suffrage n'est pas universel, c'est quand même la première fois qu'on consacre le droit de vote, vous voyez. Principe de sûreté, c'est très important ça. Principe de sûreté, c'est le fait que nulle personne ne peut être arrêtée et détenue de façon arbitraire. Mais pourquoi ce sont des droits individuels? Ben parce que le contexte, vous savez, chaque vague de droits de l'homme, même au niveau international, c'est exactement la même chose. Chaque texte, si vous voulez, est le produit d'un contexte. Quel est le contexte révolutionnaire? C'est tout le siècle des Lumières. Les révolutionnaires ne veulent plus de monarchie absolue. Tous les intellectuels, si vous voulez, de l'époque, voilà, hein, voilà, c'est l'universalisme, c'est l'humanisme. Ce qui compte, c'est d'abord le bonheur de chacun. Ce qui compte, c'est l'individu. Ben pourquoi? Et parce que depuis des siècles, l'individu en soi n'existe pas. Si on fait un travail sur les métiers, on se rend compte de quoi? Ben qu'il y avait les jurandes, les corporations. Donc on n'était pas Monsieur Dupont cordonnier à Toulouse. On était le cordonnier de telle corporation. Et on n'était pas libre des prix, des techniques, etc., etc. Si on regarde au Moyen-Âge, la société est hyper hiérarchisée. Hiérarchie au niveau de la noblesse. On était le roturier de telle censive. On était le serf de telle seigneurie. Donc, si vous voulez, pendant des siècles, l'individu en tant que tel n'existait pas. Il n'existait que par son appartenance à un groupe. Donc, c'est normal que, et c'est ça que la révolution veut. Elle ne veut plus du groupe. Donc, elle ne pouvait pas consacrer des droits sociaux et des droits collectifs. Parce que c'est pour ça qu'elle a fait la révolution, c'est pour l'individu. Vous voyez? Donc ça c'est la première raison. La seconde, c'est que le idéologiquement, si vous voulez, je vais vite là, mais politiquement, idéologiquement, c'est le libéralisme. La déclaration de 89, c'est le libéralisme politique. C'est l'État gendarme. Je ne serai libre que si l'État n'intervient pas. Vous voyez, si on regarde l'article 10, qui est fondamental, c'est l'article 10, comment il est libellé. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Ça veut dire, j'ai un esprit, puisque ce sont des droits naturels, je peux donc avoir des opinions, des convictions, des croyances, mais je ne les aurai que si je ne suis pas inquiété. Il ne faut surtout pas que l'État s'en mêle. C'est l'État gendarme, c'est le libéralisme. L'État n'est absolument pas interventionniste. Vous voyez? C'est ça, 89. C'est absolument fondamental. Hein, et au niveau international, on retrouve exactement la même chose. La première vague des droits, si vous voulez, donc, bon, je ne vais pas citer les textes, mais la première vague de droits, on appelle ça la première génération. Voilà. La première génération des droits, ce sont toujours des droits individuels. Voilà. Parce que souvent, les pays, donc la communauté internationale, les pays, l'Europe, nous en France, et puis toutes les grandes démocraties, les premières déclarations qu'elles ont faites, c'était justement pour sortir de régimes qui étaient des régimes absolutistes et dans lesquels il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas l'humanisme, il n'y avait pas l'individu. Bon, très bien. On va sur la Troisième République. Donc ça, c'est la deuxième génération. Que sont ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République? Eh bien, les grandes lois sociales. La première grande loi sociale de la troisième, c'est une loi contre, enfin contre, qui réduit et qui encadre le travail des enfants. Qu'a-t-on sous la troisième? Liberté de réunion, liberté d'association, loi 1901, liberté de manifestation, droit syndical et droit de grève pour les salariés de droit privé, la grande loi sur la presse, 1881, qui abroge tout délit d'opinion, bien évidemment les lois Ferry, la loi de 1905. Mais vous voyez bien que ces droits, les congés payés après, vous voyez, ces droits-là ne sont pas des droits individuels, ce sont des droits collectifs, ce sont des droits sociaux, mais parce que ça correspond à l'époque. La Troisième République, alors là aussi je vais rapidement, hein, mais pour vous dire la richesse, voilà, qu'il y a à travailler ces droits. Le contexte, c'est l'industrialisation. Qui dit industrialisation, qu'est-ce qui se reforme? Les groupes. On a vu, hein, ces eaux-là, quoi, hein, c'est les misérables, hein, les patrons, les mineurs, les salariés, etc. Donc il y a des catégories de gens qui se forment. Et puis là, on voit le fort et les faibles. Et puis l'idéologie, c'est pas du pur libéralisme, là. L'État devient un État interventionniste. Les communes interviennent énormément, elles se font à la Première Guerre mondiale. Les communes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ben, elles ont créé des boutiques, hein, elles ont créé des centres de ravitaillement. Donc elles sont intervenues dans la société. Donc on n'est plus sous l'empire d'un État gendarme, on est sous l'empire d'un État providence. C'est-à-dire, heureusement que l'État est là, vous voyez, pour que je puisse avoir la liberté de m'associer, la liberté de manifester, la liberté de, voilà, de faire grève, hein, ou de me syndiquer. Donc c'est totalement différent. Et c'est bien d'avoir dans un pays toutes ces influences dans les droits. Parce que si nous n'avions que des droits individuels, eh ben, si on pousse au bout, au bout, au bout, on arrive à quoi? Alors, je ne sais plus de qui elle est la formule, mais on arrive à quoi? À la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Si on n'a que des droits collectifs, ben on n'a aucun droit individuel, donc c'est que, bon, collectivisation, etc. Nous, on a les deux. Voilà. Et ça, c'est notre construction, voilà, c'est notre histoire. Voilà, ça, c'est la troisième. Quatrième République. Alors, ça, c'est 46. On sort de la guerre, il faut reconstruire. C'est toujours pareil. On sort de la guerre, faut tout seul, donc on se regroupe. Vous voyez, le groupe, hein, revient. Et donc en 1946, ce qui a été ajouté, je vous en donne quelques exemples. Le premier droit qui a été ajouté, ce n'est pas un droit, c'est une égalité. La loi garantit dans tous les domaines, pardon, la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. L'égalité homme-femme, c'est là qu'elle est. C'est en 1946 que ça a été, voyez, que ça a été proclamé. Ensuite, tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté, a droit d'asile sur les territoires de la République. Le droit d'asile, c'est la quatrième. Droit de grève et droit syndical pour tout le monde. C'est-à-dire que là, les fonctionnaires, ils ont eu le droit de grève, le droit syndical en 46. Qu'est-ce qu'on a? Le principe des nationalisations. On a le droit à l'éducation, le droit à la formation continue, le droit à la sécurité sociale, protection du chômeur, enfin, il faut les lire, ces droits-là, vous voyez? Ces droits, pareil, ils sont politiques, économiques, sociaux, C'est absolument pas du libéralisme derrière. Hein? C'est encore une fois l'État qui intervient pour protéger la femme, l'enfant, le chômeur, le demandeur d'asile. C'est une philosophie totalement différente de celle de 1789. C'est pour ça que je trouve que de donner aux élèves, que de leur montrer que la déclaration de 89, c'est leur dire quoi? Vous n'avez que des droits individuels. Mais non, toute notre histoire fait qu'on a ajouté à ces droits individuels des droits sociaux et économiques qui sont absolument fondamentaux. Voilà. Et ça fait partie de. Voilà, c'est dans la Constitution en plus. Et après, le dernier texte, alors ça, c'est la Charte de l'environnement. Alors, le problème de la Charte de l'environnement, c'est qu'elle ne crée pas de véritables droits de l'homme. Voilà, ce ne sont pas de véritables libertés publiques. Vous voyez, quand vous lisez. Alors, où est-ce que c'est? Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Bon. Eh bien, si j'habite, je sais pas moi, à Blagnac, là où il y a l'aéroport, au bord de la rocade, je ne vis pas a priori hein, dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Mais si je vais voir le juge en lui disant, voilà, il y a un article premier dans ma Constitution, dans la Charte de l'environnement, hein, qui me dit que j'ai le droit de vivre hein, dans un environnement sain, il va me dire, bah oui, tant pis pour vous, quoi. Comprenez? Alors que les droits antérieurs, ceux de 89, de la 3, de la 4, ils sont protégés. Donc, la Charte de l'environnement, si vous voulez, c'est plus un ensemble d'objectifs que les États doivent atteindre. Voilà. C'est important, je ne dis pas que c'est important, mais je ne peux pas trop m'en prévaloir devant un juge. Voilà. Voilà. Ça, c'est les droits de l'homme. Ça, ce sont les libertés ce sont les libertés. Ben voilà. La République démocratique, c'est ça. Donc c'est une république qui consacre, bon, l'élection, ça c'est sûr, la souveraineté nationale, mais qui consacre énormément de libertés publiques, l'essentiel étant dans le préambule de la Constitution. Mais pour finir sur cette question des droits de l'homme, il est toujours possible de consacrer une autre liberté, un autre droit important. C'est le législateur qui est compétent pour ça. Donc on peut aussi faire un travail sur ben, quelles sont les lois hein, qui ont consacré d'autres libertés que celles que nous avons dans notre préambule. Exemple, la liberté audiovisuelle, hein, la liberté de la communication audiovisuelle. Les enfants, ils vivent avec ça. Il y a des chaînes privées, des chaînes publiques. Il y a des radios publiques, des radios privées. Moi, à mon époque, il y avait trois chaînes. En noir et blanc, c'était trois chaînes publiques. Mais ils ne savent pas d'où ça vient, ça. C'est évident pour eux. Ben non. La liberté de communication audiovisuelle, c'est une loi de 1982. Voilà. Tout ce qui est relatif à, vous savez, la protection des données, on en parle énormément. C'est bien de travailler là-dessus, sur la protection des données, sur Internet, mais tout ça, c'est le législateur qui les a consacrés. 78, avec la création de la CNIL. Toutes les lois bioéthiques, hein, la PMA, etc. C'est 94, c'est le législateur, etc., etc. L'IVG, c'est une loi. Vous voyez? Donc, tout n'est pas figé. Voilà, on a nos grandes libertés, voilà, dans le préambule, mais ça n'empêche que derrière, le législateur continue à protéger. C'est ça une république démocratique. Voilà, c'est une république qui proclame des droits, mais de différentes natures. Nous, la seule influence qu'on n'a pas, c'est Marx. On n'a pas eu de période où on avait du marxisme, donc on ne va pas avoir des droits de type marxiste, c'est-à-dire, je sais pas moi, tout ce qui est relatif à l'appropriation collective des terres. On l'a pas parce que c'est pas notre histoire. Mais voilà, travailler les droits de l'homme et leur dire, voilà, qu'ils n'ont pas que des droits individuels quand même. Bon, ça me paraît plus riche hein, et plus juste de toute façon pour expliquer ce qu'est la République, ce qu'est une République démocratique. La République sociale. Alors, la République sociale, c'est le fait que à toutes ces libertés, si vous voulez, à tous ces grands droits de l'homme, voilà, la République ajoute un projet de société. Voilà, il y a un projet de société, c'est-à-dire qu'elle prolonge les droits sur le terrain social. Sur le terrain social, et c'est notamment ce que fait 46, la Constitution de 46. Je viens de vous l'expliquer, quand la Constitution proclame des principes, voyez, particulièrement nécessaires à notre temps. Voilà. Ce sont les droits de 46, hein, que l'on range, si vous voulez, sous la catégorie République sociale, parce que ce sont des droits qui sont fondés sur deux grandes notions, la fraternité et la solidarité. Voilà, sur les 46, l'idéologie, bon, c'est de l'interventionnisme, bien sûr, mais les deux grandes idées qui sous-tendent tous ces nouveaux droits de 46, c'est la fraternité. La fraternité, ce n'est pas une fraternité religieuse, ce n'est pas la fraternité des frères d'armes. Vous voyez, il y a plusieurs types de fraternité. Celle qui est proclamée dans notre texte, c'est la fraternité qui vise le lien qui unit les membres de la nation, les membres de cette communauté nationale auquel nous appartenons tous. Et le rôle de l'école, c'est de les amener à ça. Voilà, hein, de les amener à en faire partie, donc sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'est ça, c'est une fraternité républicaine. Et la solidarité, alors, la solidarité, elle est conçue comme une obligation de la nation. Je vous lis quelques extraits de ce préambule de 46. Il est indiqué, par exemple, la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Vous voyez, ce n'est pas l'État. Hein? Ce n'est pas l'État qui assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. C'est la nation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas seulement l'État, les collectivités locales, il y aura nous tous. C'est ça la solidarité. C'est-à-dire que 46, ce n'est pas uniquement l'État intervient, vient protéger, il met en place un régime de sécurité sociale, etc., etc. Oui. Mais nous tous, la nation, par exemple, sur ce que je viens de donner en exemple, la nation, elle va pallier éventuellement la carence familiale, l'insuffisance de la solidarité familiale. Ça, c'est une idée nouvelle. Travailler sur la fraternité, travailler sur la solidarité, voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous savez, Jaurès. Dans tous ses écrits sur la laïcité, il disait, la République ne peut pas être laïque sans être sociale. Voilà, il y a un lien entre les deux, c'est Jaurès, c'est pas moi qui le dis, quoi. Elle ne peut être laïque que tant qu'elle restera sociale, vous voyez? Mais là aussi, il me semble qu'on la travaille pas, République sociale et cette solidarité. Voilà, là, c'est nous tous, hein, qui sommes, voilà, qui devons être solidaires. Voilà les principes républicains. Vous voyez, ce n'est pas que la laïcité et la devise, c'est tout ça, c'est ce qui est inscrit dans notre Constitution. Voilà. Quant au symbole, alors, symbole, ça vient du grec symbolum, qui veut dire rassembler. Unité, encore une fois, vous voyez, ce qui nous est commun. Vous voyez, par exemple, moi je critique énormément, vous savez, l'expression vivre ensemble. Ben non, mais voilà, le vivre ensemble, c'est ça. Qu'est-ce qui nous est commun? Ben c'est tout ça. C'est ce pacte républicain. Voilà. C'est quoi qui nous unit? Ben, la solidarité, la fraternité, les droits de l'homme, le fait qu'on est tous égaux, qu'on peut tous participer à l'élaboration de la loi, etc. Voilà, travaillons là-dessus. Au moins, on travaillera, au moins, on sait ce qui nous est commun. Et donc, les emblèmes, les symboles, c'est quelque chose qui est très important puisqu'ils représentent, voilà. Il représente ses valeurs, il représente ses principes, il représente ses idées, voilà, auxquelles est attachée la République, les idées sur lesquelles elle s'est construite. Un symbole, ça permet de rattacher le passé et le présent. Vous voyez, de faire ce lien-là, hein, et de dire qu'il y a un continuum, il y a une unité qui est caractéristique de la nation française. Alors. Le premier, dans l'ordre, le premier symbole, c'est la langue. Alors ça, on ne l'avait pas en 58. La phrase qui dit « la langue de la République est le français », c'est une phrase qui a été ajoutée dans l'article 2 en 1992, au moment du traité de Maastricht. Vous voyez? Voilà. Ils ont révisé la Constitution et ils ont ajouté cette langue française. Et vous voyez? C'est comme pour l'article premier. La France est une république laïque. Ce n'est pas la France qui est laïque, c'est la République. Là, c'est pareil. La langue de la République. Et le français, ce n'est pas la langue de la France. Ce n'est pas possible d'écrire ça, parce que si on avait un texte qui disait la langue de la France est le français, ça veut dire que tous les Français devraient parler français. Et ça, c'est attentatoire à la liberté d'expression. Donc, c'est que la République, hein, qui a enfin voilà, la langue est attachée à la République. Alors, la langue, ben voilà, je reviens à ma nation. C'est un des éléments qui les membres de la nation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas parler une langue étrangère. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas parler une langue régionale. Vous voyez, unité, diversité. Bien sûr, puisqu'il y a la liberté d'expression. Mais ça veut dire que une des choses, un des éléments qui nous unit, qui nous est commun, c'est la langue française. Mais là aussi, uniquement dans la sphère publique. Alors là, il y a beaucoup de jurisprudence. Hein. Le Conseil constitutionnel, il a été saisi beaucoup de fois, et le Conseil d'État aussi. Alors on pourrait faire un travail, hein, d'histoire là-dessus, sur la langue française, avec l'abbé Grégoire, avec le premier grand texte sur la langue. C'est une ordonnance de François Ier quand même. Donc ça vient de loin, cette histoire de langage chez nous. Hein. Enfin, nous, c'est vraiment quelque chose d'important. François Ier, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Et alors je me demande, c'est le président Macron qui a. Enfin, il a fait un musée là-bas. Il y a quelque chose, hein, je crois, hein, sur la langue à Villers-Cotterêts. Qu'est-ce qu'il ordonne, François Ier? Il ordonne que tous les actes de justice soient écrits, alors comment on dit, en langue maternelle. Mais pourquoi? Ben pour que les gens comprennent quand ils sont au tribunal quel jugement est rendu. Vous voyez? Donc ce n'est pas la République, ce n'est pas du catéchisme républicain, ça. Hein, la langue a toujours été un facteur, alors une façon un moyen de communiquer, de transmettre, etc. Le français, c'est la langue du pouvoir aussi. On le sait très bien, les gamins qui parlent pas bien français, ils vont avoir des difficultés plus tard. Vous voyez? Pourquoi, avant que l'école soit obligatoire à 3 ans, il y avait des expérimentations qui avaient été faites pour allez, instruire, hein, pour scolariser, pardon, des petits de 2 ans, mais pas partout, dans les quartiers difficiles. Pourquoi ils avaient mis en place cette expérimentation? Parce qu'ils se disaient que ces gamins, plus tôt ils seraient à l'école, plus tôt ils entendraient le français, et plus tôt ils auraient peut-être un bagage avec un nombre français plus important que si on les on, que s'ils vont à l'école à 3 ou à 4 ans. C'est pour ça qu'on avait fait cette expérimentation, parce qu'on sait de toute façon, à l'entrée en maternelle, hein, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, il y a des gamins qui ont un nombre important, qui connaissent un nombre important de mots français, il n'y a pas photo, ils y arrivent mieux que les autres. Vous voyez? Donc la langue, elle a énormément de. Vous voyez, c'est le ciment. C'est la langue de la transmission, la langue de la communication, mais c'est aussi la langue du pouvoir. Et quand un gamin ne comprend pas, il n'a pas le pouvoir. Voilà. Pourquoi il y a des classes UP2A? C'est quoi le rôle des classes UP2A? C'est bien de leur donner un niveau de langue. Et pourquoi? Ben pour qu'ils s'intègrent. Ce n'est pas de l'inclusion, ça. C'est pour qu'ils s'intègrent, pour qu'ils comprennent le monde où ils sont. Et donc, la langue a contribué, encore une fois, à la construction de l'identité française. C'est par la langue, hein, qu'il y a eu des peuples d'origines diverses qui ont pu être intégrés à la nation. Vous voyez, on retrouve toujours cette base-là, hein, de cette communauté nationale. Alors, au niveau de la langue, il y a plein de choses. Alors, qu'est-ce que je. Pour résumer, alors, c'était Jacques Toubon, quand il était ministre de la Culture, il avait pris une loi en 1994 relative à l'emploi de la langue française. Et dans cette loi, il dit, voilà, la langue française est un élément fondamental de la personnalité, du patrimoine, c'est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges, des services publics, etc., etc. Et dans cette loi, vous savez, c'est la loi dans laquelle il voulait lutter contre les anglicismes. Voilà. Le Conseil constitutionnel, il a été saisi de cette loi. Et il a rendu une décision très intéressante en 1994. Pourquoi? Parce que dans cette décision, que ça signifiait la langue de la République et le français. Vous voyez, il fait une explication de texte. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cette décision? Il dit que Alors, j'essaie de vous là que l'article 2, là, établit une relation entre la nation et la langue par le truchement de la République. Il explique que la langue est inhérente à la République et non aux échanges privés. Voyez? Donc, comme elle est inhérente à la République, comme il fait le lien avec la nation, on peut donc imposer la langue française, on peut imposer une langue officielle, mais uniquement dans la sphère publique. Ça ne veut pas dire que dans la sphère privée, on va parler toutes les langues qu'on veut. Vous voyez? Voilà. Le lien, il faut le faire avec, faut le faire avec les territoires. Il faut le faire avec la nation par le truchement de la République. C'est un élément qui nous est commun. Et à partir de cette décision, il l'a appliquée, si vous voulez, à plein de situations, notamment, lors de l'examen de la Charte européenne des langues minoritaires. Mitterrand, il avait signé une charte européenne des langues minoritaires. Le Conseil a été amené à regarder si cette charte était conforme à la Constitution. Et qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il y a plein de dispositions qui sont conformes. Mais il a dit, voilà, dans cette charte, il y a une disposition qui donne le droit à des locuteurs de langue minoritaire ou régionale d'exiger des administrations, voyez, qu'elles leur délivrent les documents officiels, etc., dans leur langue. Le Conseil constitutionnel dit quoi? Ça, c'est contraire à l'article 2. Parce que dans les services publics, dans la sphère publique, voilà, on parle français. Donc, il y a une langue officielle. Donc, il a dit, voilà, si vous voulez signer cette charte, si vous voulez ratifier cette charte, il faut changer l'article 2, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pour ça qu'il y a des dispositions de la charte auxquelles on n'est pas lié. Deuxième application, l'école. Et là, c'était toute la question du tahitien dans les écoles publiques en Polynésie, du breton dans les écoles bretonnes, du basque, etc., etc. Mais pareil, faisant, si vous voulez, tirant les conséquences, voilà, de son interprétation de l'article 2, qu'est-ce qu'il dit? Dans les écoles publiques, on parle français. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de langue minoritaire, mais il ne peut pas y avoir comment on dit, d'enseignement par immersion. La dernière décision sur cette question, elle date du 21 mai 2021 quand même, hein, parce que ça revient régulièrement, hein, les langues régionales. Hein, les régionalistes, ils poussent énormément. Dans les écoles privées sous contrat, c'est exactement la même chose, puisque étant sous contrat, ils sont associés au service public. Donc on parle français. Mais on peut très bien faire une proposition de catalan, d'occitan, de tout ce que vous voulez, mais à titre facultatif, on ne peut pas l'imposer. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'écoles dans lesquelles on ne parle que breton ou autre, mais ça ne peut être que des écoles privées. Vous voyez, cette sphère publique, cette sphère privée, elle structure notre droit. Mais vraiment, hein, c'est absolument fondamental, ça. Hein. Il faut, tout est possible, il suffit de savoir où, voilà, et pourquoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est la langue. Ensuite, l'hymne et le drapeau. Alors, on les met ensemble. Bon, il y a toute une histoire, hein, de l'hymne et du drapeau. Eux aussi, ce sont des emblèmes de souveraineté qui attestent l'indépendance du pays. Vous voyez, la souveraineté d'un pays. Ce sont des héritages de l'histoire. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est, là, il y a eu une petite évolution. Pendant très longtemps, l'hymne et le drapeau étaient bien sûr protégés juridiquement, mais la protection juridique ne visait que le pavoisement, hein, des bâtiments publics. Voilà, c'était juste ça. Mais à la suite de matchs de foot, notamment France-Algérie, alors ça devait être avec le président Chirac, où la Marseillaise a été sifflée, et il me semble qu'il est parti, le président. À la suite de ça, il n'a pas supporté. Il y a la loi du 18 mars 2003, qui est la loi sur la sécurité intérieure, qui a créé un délit. Qui dit délit dit pénal, hein? C'est du pénal, le délit. Et donc, depuis 2003, sur la sécurité intérieure, il existe un délit d'outrage au drapeau et à l'hymne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas siffler la Marseillaise. On ne peut pas brûler le drapeau. Et cette loi, elle est inscrite maintenant dans le code pénal, c'est du pénal, hein, à l'article 433-5-1. Je vous le lis. Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore est puni de 7 500 € d'amende. Commis en réunion, 6 mois d'emprisonnement en plus de l'amende. Voilà. Donc, les élèves, ils font un journal, ils font une émission radio, je ne sais pas, ils utilisent, ils expriment, hein, ils manifestent leur expression, oui, mais il y a plusieurs limites. À cette limite-là, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'hymne et le drapeau. Vous voyez, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est un principe juridique. Donc, c'est. Voilà, c'est une règle de droit. Voilà, c'est ça qui est important de. Vous voyez, voilà, c'est comme la réforme sur les retraites. Si ça se trouve, moi, je ne suis pas d'accord. Bon, ben oui, mais elle va s'appliquer à moi, quoi. Vous comprenez? C'est au bout d'un moment. Donc, comme on a des règles à appliquer, eh bien, expliquons-les. Voilà. En plus, elles sont belles quand même. Donc, voilà, on n'outrage pas un drapeau. Et donc, là, il y a des jurisprudences là, qui sont sorties ou on a eu à se prononcer, par exemple. Un député ne peut pas brandir à l'Assemblée nationale un drapeau étranger. Ça s'est passé, alors c'était quand? C'était le drapeau palestinien, peut-être, je ne sais plus là, hein, mais il y a quelques mois. Hein. Bon, mais ça, ce n'est pas possible. Alors ça, c'est inscrit dans le règlement des assemblées. Voilà. L'Assemblée, vous voyez, l'Assemblée, c'est l'Assemblée nationale. On ne brandit pas un drapeau étranger dans l'hémicycle où s'exprime la représentation nationale. Voilà. Autre chose. Alors, sur un fronton de mairie, il y avait eu un drapeau israélien après Gaza, etc., etc. Donc là aussi, s'est posé la question. Alors, on ne peut pas, hein, sur le fronton de bâtiments publics, afficher un drapeau étranger. Ce n'est pas possible en vertu du principe de neutralité des lieux publics. Voilà. Ça dérive du principe de neutralité des lieux publics. Mais il y a certaines choses qui sont tolérées. Alors, je ne vous donne pas les arrêts, mais il y a de la jurisprudence. Par exemple, on peut afficher un drapeau qui n'est pas le drapeau français ou le drapeau européen si c'est un signe de, si c'est, voilà, de solidarité envers un peuple, envers, je ne sais pas, une communauté. Exemple. Alors, bon, les exemples après. Si c'est une manifestation de solidarité conforme à nos engagements internationaux, ou alors si le drapeau est affiché pour des causes humanitaires, pour lutter contre des discriminations, mais parce que tout ça, on l'a dans notre droit. Exemple, le drapeau pour soutenir les discriminations que subissent les personnes LGBT. Quand une personne étrangère vient en visite dans une ville, on peut de façon temporaire, voyez, arborer le drapeau de son pays, mais c'est temporaire et c'est le temps, hein, que cette personne soit là. Donc il y a des tolérances, si vous voulez, mais par principe, on ne peut pas, hein, exposer ce genre de drapeau. Voilà. Donc là, il y a un outrage, et tant que je suis sur la notion d'outrage, alors. Ce n'est pas un principe, mais je vous le dis, pendant très très longtemps, il existait en France un délit d'outrage au chef d'État. Vous savez, on ne pouvait pas, un délit d'outrage au chef de l'État. Eh bien, ce délit a été abrogé. Alors, ça doit être en 2013, vous voyez, ce n'est pas très vieux, à la suite d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a dit que notre législation, qui prévoyait un délit d'outrage au président, était contraire à la liberté d'expression. Et donc, on a dû abroger ce délit. Et ça fait suite à l'affaire, allez, c'était sous le président Sarkozy, alors je ne sais plus où il était, et il y a une personne, un kidam, un citoyen, qui avait brandi une pancarte sur laquelle était marqué. Vous en souvenez de cette histoire? Ce que M. Sarkozy avait déjà dit quelque temps avant. Et donc, le président avait porté la question, si vous voulez, en justice, c'est remonté jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, il y a outrage au drapeau et à l'hymne, mais il n'y a plus d'outrage au chef de l'État. Voilà, au nom de la liberté d'expression. Ensuite, donc, autre symbole, la devise. Alors, c'est magnifique, la devise. Hein, liberté, égalité, fraternité. Donc, là aussi, elle a toute une histoire. Elle ne date pas de la Révolution, hein, puisque la liberté, égalité, oui, mais la fraternité, je pense que c'est la Seconde République, hein, sous l'influence de Saint-Simon. Alors, la valeur première, bien sûr, c'est la liberté. On retrouve plein d'articles, hein. 89, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui nuit pas à autrui. L'égalité, bien sûr qu'elle est consacrée, on a plein de textes, hein, l'égalité politique, l'égalité civile. Alors là, il y a une décision très importante qui est aussi récente, c'est 2018. La fraternité, vous voyez, elle n'était pas forcément invoquée, hein, par les juges. En 2018, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une affaire. Vous savez, c'était cette personne dans les Alpes qui accueillait chez lui des migrants qui passaient, voilà, qui passaient par les Alpes venant d'Italie, etc. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce monsieur. Il a été jugé, etc. Donc, c'est remonté au Conseil constitutionnel. Pour la première fois en 2018, il dit que le délit de solidarité qu'on avait quand même dans nos textes, hein. C'est quand même dingue. On avait une loi qui parlait du délit de solidarité. Et là, en 2018, il dit que ce délit de solidarité est contraire à la fraternité. En faisant cela, il donne la valeur la plus haute, si vous voulez. Il donne valeur constitutionnelle à la fraternité. C'est une décision absolument, voilà. Moi, je rentre pas dans tous les détails, hein, mais bon, voilà, c'est très important. Et donc, voilà. Mais voyez, il y a plus de choses à dire sur les autres symboles, forcément, que sur la devise. Et enfin, le principe, alors c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, c'est, vous le savez, Lincoln, hein, c'était Lincoln qui avait, voilà, qui avait fait cette déclaration en 1863. Alors là aussi, on peut la travailler, elle est un petit peu difficile à travailler. Cette formule réunit, si vous voulez, dans une même proposition, trois figures du peuple. Le peuple, objet, sujet et fin du gouvernement. Le peuple est objet du gouvernement, il est sujet du gouvernement et il est fin du gouvernement. C'est une formule qui reprend et qui synthétise tous les aspects de la démocratie. Voilà, le peuple est objet du gouvernement parce qu'il est soumis au gouvernement, parce qu'il est soumis à la volonté générale. La loi est l'expression de la volonté générale. Il est sujet du gouvernement parce que la volonté du peuple est soumise au principe de la légitimité, c'est-à-dire sujet du peuple, légitimité, souveraineté nationale, souveraineté populaire. Et il est fin parce que, ben, la fin de toute politique, de tout projet politique, la fin, l'objectif, c'est-à-dire, hein, l'objectif du gouvernement, c'est quoi? C'est le bien commun, c'est le bonheur de tous, c'est-à-dire tout ce qui fait l'essence de la République. Le un, le commun, le bonheur de tous. Voilà. Très rapidement, tous nos grands principes républicains. Voilà, après on pourrait voilà, on peut développer. J'espère que voilà, ça vous a plu. Si vous avez des questions.
Alors, merci beaucoup, Madame de la Morena. Donc, avec François Ruchon, nous allons poursuivre parce que Franck Fedat a été pris par une urgence,
Ah.
vraiment, et il s'excuse auprès de l'ensemble des
Voyez.
participants. Il a
Oh.
dû, voilà, vraiment nous quitter parce que là, il n'y avait vraiment pas le choix. On a justement une question qu'avait laissée François, et peut-être après, Monsieur Vernonnet, que vous voulez peut-être compléter, hein, prendre aussi un petit peu la parole. Peut-être on vous pose la question tout de suite, Madame de la Morena. François, je te laisse la formuler parce que je suis plus sur le
Bon,
bon
s'il te
endroit.
plaît. Quelle est la différence entre unité et unicité? Ah. L'unité, c'est plus générique, si vous voulez. Il n'y en a pas trop, hein. Il n'y en a pas trop. Juridiquement, il n'y en a pas. Voilà, c'est plus dans une façon de parler. Voilà. L'unicité, c'est le fait. On parle d'unicité du peuple lorsque on va dans les détails et quand on travaille sur ses composantes, si vous voulez. Alors, on dirait l'unité du peuple, c'est pareil. C'est pas juridiquement, il n'y en a pas. Voilà, c'est plus des choix de termes selon l'approche que l'on a, si vous voulez, et l'analyse que l'on veut faire de la notion.
Merci. Donc, si vous avez encore des questions ou des remarques, n'hésitez pas. On va passer la parole à Franck Vergnaud-Nègre pour voilà, contribuer également un petit peu à éclairer le sujet.
Merci Marie-Pierre. Merci Madame de la Morena pour cet éclairage juridique et historique qui est absolument nécessaire et qui est impérieux pour comprendre le sens des principes et des valeurs. Ces deux mots sont importants de la République. Et je crois que j'insiste vraiment vous l'avez dit, mais c'est important pour nous aussi de bien distinguer les valeurs qui sont des idéaux que l'on peut discuter, bien entendu, et des principes qui ont des fondements juridiques et qui norment les choses. Je trouve que c'est absolument essentiel et vos approches historiques sont extrêmement fines et précises. Je vous en remercie. Il est important de souligner que, alors dans l'histoire de l'école, hein, que la transmission des valeurs est finalement un sujet qui s'est véritablement posé dans l'institution scolaire assez récemment, de manière explicite. L'historien et spécialiste des questions de citoyenneté à l'école, hein, Benoît Falaise, qui montre qu'avant les années 2010, cette notion de valeur de la République était exceptionnellement explicitée. Et aujourd'hui, force est de constater qu'elle constitue, cette notion de valeur constitue le socle des programmes scolaires, des actions et de nos référentiels. Et finalement, longtemps, les valeurs allaient de soi. On pensait qu'elles se transmettaient presque naturellement à l'école.
C'est vrai.
Et que l'école, finalement, semblait porter de manière évidente ces valeurs et ces normes sociales. Et dans le quotidien des élèves, si les symboles de la République étaient présents, la devise était portée au mur, elle était parfois proclamée, récitée, mais sans réellement être discutée, sans réellement être interrogée, et donc comprise dans son sens profond. Alors, je vais peut-être paraître un peu excessif, mais des symboles qui finalement faisaient partie du décorum quotidien. Et Benoît Falaise, à ce titre, parle de citoyenneté d'évidence que l'on a fini par ne plus interroger. Et alors, il y a eu une évolution hein, depuis 20 ans, une prise de conscience et une évolution depuis 20 ans sur ces questions, bon, notamment bien sûr liées au contexte économique, politique, géopolitique, qui a changé la donne. Alors, je ne vais pas refaire l'historique, mais on peut penser voilà, à l'article 2005 dans le code de l'éducation hein, qui dit que outre la transmission des connaissances à la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République et dans l'exercice de leurs fonctions les personnels mettent en œuvre ces valeurs. Bon, il y a eu d'autres textes depuis hein, vous avez fait référence à la Morena au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation hein, justement qui porte ces éléments. On peut évoquer aussi 2013, la charte de la laïcité par Vincent Peillon. 2015, suite aux attentats, la grande mobilisation pour les valeurs de la République, hein, rédigée par, enfin, proposée par Manuel Valls et Najat Vallaud-Belkacem. Et en ce qui nous concerne, la note de service de 2015 hein, sur la mobilisation de l'ensemble de l'école pour les valeurs de la République, un document important proposé il y a 10 ans. Mais il y a une évolution qui est extrêmement importante ces dernières années et tout récemment. C'est qu'est apparue hein, la notion de principe, qui jusqu'à présent n'était pas vraiment, qui n'était pas présente dans les textes, du moins pas explicitement présente. Et c'est une évolution qu'il faut souligner, parce qu'il y a une réelle volonté d'affirmer ces principes, pour les raisons que vous venez d'évoquer hein, tout à l'heure. On peut citer, par exemple, durant l'été 2024, les nouveaux programmes d'EMC de l'éducation nationale qui ont été publiés en juillet 2024, dans lesquels on retrouve hein, vraiment les valeurs et les principes de la République. Et ça, c'est une nouveauté qui est importante de souligner. Le rappel au droit et à la norme juridique est devenue absolument fondamentale pour les raisons que vous avez indiquées tout à l'heure, à juste titre. Alors, la question qu'on peut se poser, tant que pédagogue, professeur, directeur d'établissement, membre de la communauté scolaire, c'est comment, au-delà des discours, des textes, des notes de service, nous devons nous interroger hein, sur les mises en œuvre finalement disciplinaires, pédagogiques, éducatives nécessaires pour transmettre, mais pas seulement pour transmettre, mais surtout pour faire partager, pour incarner ces valeurs au quotidien. Comme je reprendrai la formule hein, du philosophe de l'éducation Éric Préra, de rendre la valeur désirable, de donner finalement de la valeur à la valeur, et pas seulement par des discours incantatoires moralisateurs, excusez-moi cette expression, mais ou nostalgiques d'une certaine école qui aurait disparu et qui était porteuse de ces valeurs, mais par aujourd'hui des pratiques qui ont réellement du sens et qui font sens pour les apprenants au quotidien. Et il me semble qu'il y a une absolue nécessité à réfléchir à ce qu'on pourrait appeler la dimension éthique des savoirs et des pratiques afin de réfléchir au sens profond de ces principes et de ces valeurs. C'est un vrai défi hein, pour l'école, pour tous les acteurs de l'école aujourd'hui. C'est aussi une ambition de tous les jours de former des élèves à l'exercice et à une conscience claire de la citoyenneté. Et une citoyenneté qui repose hein, sur la relation toujours complexe entre les intérêts particuliers et le bien public. Vous avez évoqué la chose publique, la res publica. Et l'école est traversée hein, par cette difficulté au quotidien, puisque, comme le dit l'historienne et philosophe Mona Ouzouf, l'école est un lieu d'apprentissage très particulier, puisque c'est à la fois le lieu de l'émancipation individuelle, de la réalisation et de l'affirmation de soi, mais c'est aussi le lieu où se construit le commun, l'unité collective, la communauté, la société, la nation. Et donc, il est très très important de comprendre cela, mais aussi d'expliquer cela aux apprenants, hein, cette dialectique complexe, surtout aujourd'hui dans une société qu'on pourrait bon, qualifier, c'est pas moi qui utilise cette expression, je la reprends, d'une société des individus et des individualités de plus en plus complexe et fragmentée. Ce qui pose la question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec un regard critique que je partage sur cette notion de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans les établissements d'apprendre ensemble? Alors, pour répondre assez rapidement, parce que le temps file assez vite, on a quelques éléments de réponse. Bien entendu, alors il y a les programmes, les référentiels, il y a les cours d'enseignement moral et civique, bien sûr, mais pas seulement. Cela, bien évidemment, ne suffit pas pour faire partager, incarner complètement ces valeurs. Et je le dis, et je voudrais l'affirmer haut et fort ici, hein, et toutes les disciplines, tous les enseignements et tous les acteurs de l'établissement hein, qui doivent contribuer à ce travail, les réflexions à ce sujet et les réponses sont toujours collectives et elles sont toujours collectivement nécessaires. Et c'est pas seulement le professeur d'histoire-géographie et d'EMC qui apporte ses réponses, ses questions, surtout dans les situations difficiles, mais c'est bien l'ensemble de la communauté éducative au sens large, y compris les apprenants, y compris les parents, y compris les partenaires, qui doivent se mobiliser à chaque instant sur ces questions de valeurs et de principes républicains à l'école. Alors bien sûr, il y a une multitude de dispositifs au sein de l'enseignement à l'école. Je vais les passer rapidement, bien sûr, l'unité facultative, l'engagement citoyen, les éco-délégués, les ambassadeurs de mémoire, les dispositifs sentinelles et référents. J'évoquais avec ma collègue de sport hier aussi des dispositifs dans le domaine, avec l'UNSF par exemple, le sport partagé, hein, qui permet d'intégrer dans une même compétition des jeunes en situation de handicap et des jeunes valides pour une inclusion effective. Donc, tous ces éléments, tous ces dispositifs existent et ils apportent des réponses, justement, plus que des réponses, mais ils font vivre finalement l'établissement. Bon, j'en profite évidemment pour saluer le travail du bureau de l'action éducative et de la vie scolaire et son réseau, puisqu'ils sont très très impliqués sur de multiples thèmes et effectivement, à leur échelle, ils jouent un rôle très très important pour incarner ces valeurs et ces principes. Nous avons aussi bon, des journées emblématiques. Je crois que le calendrier scolaire propose de nombreuses journées. J'en ai à peu près comptabilisé une douzaine dans l'année. Des journées emblématiques, des concours, des multiples temps forts institutionnalisés, les semaines de l'intégration, les semaines de l'engagement, la journée nationale de lutte contre le harcèlement, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au mois de novembre, la journée de la laïcité, bien sûr. Récemment, 27 janvier, la journée de la mémoire des génocides, la prévention des crimes contre l'humanité. Multitude de journées qui existent, multitude aussi de projets pédagogiques, de projets éducatifs qui sont portés par les établissements. Et les établissements font énormément au quotidien pour œuvrer dans ce sens. Alors évidemment, j'oublie énormément de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont engagées sur le terrain et qui méritent d'être soulignées. Cependant, je voudrais insister sur quelques axes qui nous semblent fondamentaux à approfondir dans la pratique quotidienne, dans les établissements. Je voudrais insister sur, en dehors de ces temps forts et de ces moments institutionnels, sur la posture et l'éthique professionnelle. Il faut rappeler que la place de l'enseignant et de l'adulte est la condition première, me semble-t-il, pour incarner ces valeurs et ces principes. Et là, il y a une vraie réflexion à mener dans les établissements sur les valeurs même portées dans les établissements, en rappelant qu'un enseignant n'est pas seulement porteur de connaissances ou transmetteur de connaissances, mais qu'il représente et incarne lui-même quelque chose de bien plus grand dans sa classe et dans son établissement, qui doivent d'ailleurs se traduire dans les pratiques pédagogiques et je dirais les gestes éducatifs, des pratiques pédagogiques et des gestes éducatifs qui permettent d'incarner ces valeurs à travers des méthodes actives et à travers ce que le philosophe Christophe Marsolier appelle une relation pédagogique humaniste. Alors aujourd'hui, il y a un grand débat dans les médias sur des approches un petit peu antagonistes, sur deux visions différentes. Alors, il y a la vision un petit peu traditionnelle défend l'idée que pour transmettre les valeurs et les principes de la République, il faut une pédagogie plutôt descendante, plutôt académique, avec la restauration de l'autorité, de la sanction, forme de nostalgie de l'école d'antan, avec ces fameuses leçons de morale. Je ne cache pas que je ne suis pas très fan de ce genre de pratique. Une autre vision, peut-être un peu plus intéressante pour les pédagogues et les formateurs, serait de s'inspirer de pédagogie active, davantage à la manière de faire partager ces valeurs et ces principes de manière effective, plutôt que la transmission un peu académique et autoritaire de ces valeurs. À la fois en enseignant la complexité des choses, et comme on l'évoquait il y a un instant, enseigner aussi la dialectique. Madame de la Morena, à juste titre, évoquait cette dialectique entre unité et diversité. Je trouve que c'est extrêmement intéressant dans les salles de classe, justement, d'engager les élèves sur ces réflexions qui ne sont pas simplement des réflexions philosophiques, qui sont aussi des réalités politiques, sociales et citoyennes au quotidien. Je crois que c'est très, très important de le rappeler. Et donc, c'est incarner les valeurs de la République et les principes de la République, c'est aussi réfléchir à nos pratiques pédagogiques, à nos gestes éducatifs, fondés sur la bienveillance et l'exigence, fondée sur un climat scolaire et un climat d'apprentissage serein. Et surtout, 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 j'insiste là-dessus, en considérant absolument tous les élèves comme des interlocuteurs valables, capables de réflexion, capables d'autonomie et capables de prise de responsabilité. Je crois que c'est important d'insister là-dessus. Christophe Marcellier parle d'une éthique de la relation entre l'apprenant et les adultes. Je crois que ce terme est très important. Il fait sens pour travailler ensemble, pour faire ensemble, pour parler ensemble et pour réussir ensemble aussi. Et donc pour faire société ensemble à l'école. Alors bien sûr, je vais vite. Hein, l'enseignement agricole a beaucoup travaillé aussi sur la mise en œuvre des compétences psychosociales. Donc on ne peut quand même que rappeler l'importance de ces compétences, à la fois cognitives, émotionnelles et sociales, mais qui participent aussi à ce travail dans ces pratiques pédagogiques. J'aimerais aussi rappeler l'importance finalement, bon, au-delà des grands discours et des grandes journées institutionnalisées, rappeler l'importance du quotidien, de ce qui se passe au quotidien dans l'établissement, dans la classe, et finalement dans la relation la plus simple et la plus immédiate à autrui. Il est important de saisir ce qui se joue dans le fonctionnement ordinaire et quotidien de l'école. Étant les actes le plus simple, parfois, on y pense guère, mais on peut déceler des, voilà, certaines transmissions de valeurs, la manière de recevoir ses élèves en classe, la manière de faire l'appel aussi. L'appel n'est pas simplement un geste administratif, il n'a pas simplement une fonction administrative, il a bien d'autres fonctions. Et c'est important de, comme le dit d'ailleurs Edgar Morin récemment, il a évoqué cela et j'ai trouvé ça très intéressant, de retisser le lien social dans la relation la plus simple du quotidien, finalement, pour recréer de la sociabilité, de recréer de la relation interpersonnelle. Alors attention, c'est ce que font la plupart des enseignants, tous les enseignants, je devrais dire, et tous les membres de la communauté éducative, mais c'est important de se rendre compte de l'importance justement de ces gestes du quotidien, où se joue finalement la citoyenneté à travers ce qu'on pourrait appeler la civilité ou le civisme. Ce sont des éléments constitutifs de la citoyenneté. C'est une façon finalement de faire société ensemble, et pas seulement, on l'a dit il y a un instant, de vivre ensemble, de plus en plus côte à côte sans se rencontrer, et même de plus en plus face à face dans une société de plus en plus clivante. Il est important de renouer en fait hein, au quotidien ce contact entre les apprenants et tous les membres de la communauté scolaire. À ce titre, le philosophe Abdé Nourbidar a utilisé la devise. Et il propose aux enseignants de lire la devise dans les pratiques de classe à l'envers. Il leur demande par exemple de débuter par la fraternité finalement. Cette notion de fraternité, on l'a évoqué il y a un instant, c'était intéressant, pour mieux saisir finalement le sens que l'on peut donner aussi à la liberté et à l'égalité. Donc plutôt que rentrer par la liberté, l'égalité et la fraternité, réfléchir d'abord avec les élèves sur ce que signifie la fraternité, pas simplement au niveau de la communauté nationale, de la société, mais aussi la fraternité dans la classe, la fraternité dans l'établissement, sur le territoire. Et donc ça rappelle l'importance de ces relations, l'importance des situations pédagogiques qui vont aussi incarner ces valeurs positives, travail de groupe, travail de coopération, la collaboration, la solidarité, la bienveillance, l'empathie, l'exigence, l'équité, le respect des uns et des autres, la réussite pour tous, etc. Et là, il y a une réelle éducation quotidienne à construire, et ce sont voilà, de vraies valeurs républicaines, fondées, adossées, pardon, à des principes. Et puis, je vais reprendre l'expression que j'ai beaucoup apprécié de prendre au début de cette intervention, puisqu'il évoquait le conseil des délégués des élèves et leur pouvoir d'agir. Je crois que c'est un élément qui est fondamental, parce qu'on doit aussi s'interroger dans les établissements sur la place qu'on laisse aux apprenants. Quelle place on leur laisse dans la classe, quelle place on leur laisse dans les établissements, et finalement quelle place on leur accorde dans les instances, que ce soit les instances nationales ou locales. Interroger la part d'autonomie qu'on laisse aux apprenants, c'est aussi interroger la question de la démocratie scolaire dans les établissements, et finalement interroger notre idéal démocratique, à l'idéal démocratique que l'on souhaite construire à travers nos propres pratiques professionnelles. Voilà, quelle place et quel rôle jouent véritablement les apprenants dans la vie, les instances de l'établissement? Quelle part de responsabilité leur accorde-t-on? Quelle part de citoyenneté active et réelle leur offre-t-on? Quel pouvoir d'agir? Je reprends l'expression parce qu'elle est très intéressante. On leur accorde pour qu'ils soient véritablement force de proposition. Et donc, in fine, pour qu'ils puissent construire une réelle culture démocratique, républicaine, animée par une culture de l'engagement, et finalement, pour construire une citoyenneté qui ne serait plus simplement instituée par la transmission, mais qui serait bien instituante par des processus engagés et partagés collectivement. Ça, c'est une vraie réflexion, hein, que l'on pourrait mener dans les établissements pour une citoyenneté pleine et active. Parce que c'est un petit peu, in fine, ce que l'on veut. Alors, il reste plus beaucoup de temps. J'avais deux exemples concrets à vous présenter pour illustrer mon propos, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le présenter. Je me tourne.
Alors, je propose peut-être un des deux, si c'est possible. On tient le timing à peu près. Après, tu vois, si tu arrives à un petit peu condenser, c'est toujours intéressant, les exemples concrets, oui.
Très rapidement, parce que justement, pour le plus simple, peut-être une séance d'enseignement moral et civique à laquelle j'ai pu assister, qui était, je dois le dire, une très belle séance, une séance qui fonctionnait très très bien, mais une séance qui était assez finalement classique, avec un professeur qui fait travailler ses élèves dans un premier temps en salle informatique, travail de groupe pour faire des exposés sur les symboles de la République. Les élèves doivent choisir évidemment les symboles, doivent faire un exposé, et la séance suivante, c'est une restitution en classe avec un tableau qu'il faut remplir, assez classique, sur le drapeau, la Marseillaise, le 14 juillet, Marianne, la devise, etc. Bon. Alors, la séance fonctionnait très très bien. Mais avec l'enseignant, ensuite, on s'est dit, mais quel est finalement, dans cette séance, l'engagement que les élèves ont pris en dehors de cet engagement, je dirais, scolaire, en salle informatique. Et on était plutôt sur le faire savoir, sans réelle prise de risque, que la pratique finalement effective de la citoyenneté. Et avec l'enseignant, on a réfléchi à une autre formule qui serait peut-être moins académique, mais un peu plus engagée. Et on a éliminé, alors j'ai rien contre les salles informatiques, hein, mais on a zappé l'étape de la salle informatique, et avec l'enseignant, on a réfléchi à laisser les élèves parcourir l'établissement, voir la commune qui était juste à côté, à proximité du lycée, pour placer les élèves en situation d'investigation. Donc les élèves apprennent à observer, à relever, à collecter, à se questionner sur les symboles, et finalement partir sur un jeu de piste. Où sont les symboles de la République dans mon établissement? Où sont les symboles de la République dans ma commune? Et donc, ces élèves ils vont parcourir le lycée, ils vont parcourir la commune, et ils vont aller chercher ces symboles de la République, ils vont les rencontrer. Et ils vont se poser des questions. Pourquoi ces symboles sont ici? Qu'est-ce que ça signifie? On leur a proposé aussi ensuite de rencontrer des acteurs. Alors, d'aller interroger le directeur de l'établissement, d'aller interroger les membres de la vie scolaire, voire d'interroger, si c'était possible, des élus locaux pour faire un vrai travail d'investigation sur le terrain, pour interroger finalement ce qu'ils avaient tous les jours sous les yeux mais qu'ils ne regardaient plus, ces symboles de la République. Et donc, vous voyez qu'il y a une dimension pratique qui est beaucoup plus intéressante, me semble-t-il, hein, qu'une recherche en salle informatique sur des ordinateurs. Et puis, il y a toute une réflexion sur la question des espaces. Pourquoi, dans tel espace, il y a des symboles? Que signifie la présence de ces symboles sur cet espace? Et on va pouvoir ainsi distinguer ce qui relève de l'espace intime, de l'espace public, de l'espace du service public, et comprendre finalement la relation entre espace, territoire, valeurs et principes de la République, et comprendre que l'école est vraiment un lieu particulier, hein, parce que c'est pas l'espace intime, l'école. C'est ni l'espace public, mais c'est l'espace du service public qui est marqué par des symboles qui ont une signification. Et donc, ce travail permettait vraiment d'engager des capacités différentes, l'enquête collective, la collaboration entre pairs, la coopération, l'échange, le questionnement, la confrontation, l'autonomie, l'initiative individuelle et collective, l'esprit critique et créatif, donc faire ensemble. Et là, vous voyez, donc c'est cet exemple très rapide, hein, je m'en excuse, j'ai pas le temps de détailler, mais nous avons là deux processus différents. Dans le deuxième processus, on place vraiment l'élève en situation de faire, avec une appropriation, me semble-t-il, un peu plus forte des problématiques liées aux valeurs et aux principes de la République. Et on pourrait finir, et Madame de la Morena l'a très justement dit tout à l'heure, hein, sur l'idée des symboles bafoués avec un débat, est-ce que j'ai le droit de siffler la Marseillaise, ça, de foot. Madame de la Morena a très justement rappelé, hein, l'outrage public à l'île nationale qui fait l'objet d'un article aujourd'hui. Voilà, excusez-moi pour la précipitation de la fin de mon exposé, mais il reste quelques minutes, donc je vais m'arrêter là.
Oui.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Voilà.
L'étude du Conseil d'État pour l'année 2024 a pour thème la souveraineté. Voilà. Vous l'avez sur Internet, il n'y a pas de. Voilà. Richesse, voilà. Il y a toute l'historique, tous les problèmes. Et il y a, voilà, c'est un gros bouquin sur la souveraineté. C'est même à considérer qu'il était nécessaire de revenir sur cette question de la souveraineté. Voilà. Juste, voilà, ça peut être un recueil pour se puiser des. Voilà. Voilà, c'était juste ça, je voulais vous y aller, j'ai oublié de le faire tout à l'heure.
On vous en remercie. Je me suis permis, et Madame de la Morena n'était pas au courant, de mettre dans le chat les références d'un de ses ouvrages qui s'appelle Les frontières de la laïcité. Voilà, si vous avez suivi ces deux conférences, pour voilà, retrouver tout ce qui a pu être partagé. Voilà, je voulais simplement le signaler. Vraiment remercier ben, tous deux pour tous ces apports et puis cette entrée par le retour au sens, au juridique, voilà, qui donne du sens à faire du commun, hein, en reprenant l'historique. Vraiment, je pense que pour des choses très très concrètes, il est toujours important de, voilà, de revenir comment on va entrer dans les thématiques avec les jeunes. Et pour terminer, simplement, comme Franck vous l'a dit, en début de webinaire, au BAEVS, comme dans tout l'enseignement agricole, on est très mobilisé, bien sûr, autour des valeurs de la République. Et je vous ai signalé deux temps de rencontres à nouveau dans les deux jours qui suivent. Demain, nous aurons un webinaire avec Pascal Blanchard, historien, sur les questions de racisme et de stéréotypes par le biais des images. Donc ça, c'est dans le cadre des épisodes Cévenol avec l'Institut Agro. Et donc en lien avec notre réseau Égalité, Diversité, Lutte contre les violences et discriminations. Et puis vendredi, notre entrée autour des droits culturels, qui est un champ aussi que nous souhaitons explorer avec le réseau Action et Développement Culturel. Et on propose de se pencher un petit peu sur cette question des droits culturels. Madame de la Morena a peut-être aussi des choses à dire là-dessus. On va
Attention,
s'arrêter là.
attention au droit culturel, attention.
Eh bien, on retient, on ira poser des questions, voilà, pour rester en attendant. Merci beaucoup à tous pour votre présence, votre écoute, et vous pourrez réécouter ce webinaire sous forme de podcast sur Chlorophylle dans la page dédiée. Donc, sur la page laïcité laïcité Chlorophylle. Et puis, Madame de la Morena, voilà, les participants vous remercient pour
Oh, c'est super.
et votre apport.
On
Merci
peut
à
en parler
tous.
pendant. Voilà.
Au revoir.
Merci. Merci,
Merci
au revoir.
beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Merci beaucoup.